Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ce message. Toute parole, toute écriture inspirée par toi est profitable pour nous enseigner, pour nous corriger. Tout c'est pour notre profit, tout c'est pour là, pour nous nourrir et de nous corriger, et de rectifier notre âme d'être en bonne place avec toi, Seigneur. Donc, merci. Merci, Seigneur. Amen. Ok. Ce soir, je voulais parler de quelque chose. Le titre, j'essaie de travailler avec le titre. Mais, Romains chapitre 8, verset 28, pour début. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. C'est un verset, on dit en anglais, life verse. C'est un verset rhéma personnel pour moi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnaisse-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce soir, je voudrais parler sur une histoire en 1 Samuel. C'est parti de la vie de David. Et je ne vais pas lire tous les chapitres entiers, on n'a pas le temps. Je vous encourage de lire ces chapitres, de voir le passage des événements. Mais je vais tirer certaines applications sur chapitre 27, 29 et 30. 1 Samuel, chapitre 27, 29 et 30. David, je vais essayer de donner un court résumé de ces passages. 1 Samuel 27, 29, 30. David était chassé par Saül. Au début, en 1 Samuel chapitre 16, Samuel était appelé de Ouin, le roi choisi par Dieu, et c'était David. Il arrive, il n'était pas au courant jusqu'à le moment que le Seigneur dit, c'est lui. Donc tous les autres frères ont passé devant Samuel pour enseigner Samuel. David, maintenant, roi pour être le roi, mais bien sûr, Saül est toujours le roi. Alors, donc la chose qui passe, c'est cette fameuse histoire en chapitre 17 avec Goliath et David, qui ne cherche pas l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu, est poussé devant tous les autres, et c'est Dieu qui a amené les victoires. David était reçu une promotion, il était exalté de servir Saul comme un capitaine dans l'armée. Et il était aimé par Jonathan, son fils, donc Jonathan a honoré David comme il honore un roi. Il a enlevé son vêtement. Je crois qu'il a donné son épée aussi. Et c'est comme il a dit, je vois que toi vas être le roi et pas moi après Saul. Saul, bien sûr, est maintenant jaloux. On peut voir que Saul était sous la discipline de Dieu parce que l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament qui normalement demeure sous le croyant, le qui est dans une certaine position, roi, prophète et sacrificateur. L'esprit est enlevé de Saul. Et Saul est maintenant torturé et tourmenté par un démon. C'est une forme de châtiment. Et la chose qui passe est avec cette paranoïa qui entre à cause de cette discipline divine de Dieu et que Saul maintenant commence à descendre dans un pont glissant de paranoïa et peur. Et juste pour noter, c'est une parenthèse, vois combien de fois c'est noté qu'il était avec une lance et il était positionné sur un arbre avec ses soldats autour de lui pour indiquer comment il était tellement insécure. Fais la comparaison avec David qui était seul en train d'être chassé par Saul et lui-même des fois seul ou avec ses hommes dans une grotte en Judée, dans le désert. Et tu vois la différence entre les deux. On arrive d'un moment qu'il est chassé sans cesse par Saul. C'est injuste. Il confronte Saul deux fois, chapitre 24 et 26. Tu vois qu'il y a une confrontation entre Saul et David. Et deux fois, la miséricorde de Dieu par David a laissé Saul de vivre. Finalement, maintenant, on arrive dans le contexte et on va expliquer ce qui passe en chapitre 27. Maintenant, David dit, j'en ai marre d'être chassé partout et de courir partout avec Saul en train de me chercher. Je vais aller de voir, quel est son nom, je vais juste regarder, juste afin que j'ai Achish. Achish, le roi à Gath, un philistin. Et c'est la deuxième fois qu'il va voir cet homme. C'est intéressant. Je ne comprends pas pourquoi la première fois et la deuxième c'est différent. Mais ici, il arrive avec ses soldats, ces fameux hommes valiants. Et il dit, évidemment, ils ont les familles avec eux aussi, je vais rester ici parce que là, je vais être sûr. Il a dit dans son cœur en verset 1 de chapitre 27, maintenant je vais trouver sécurité parce qu'un jour, Saul va me tuer. Mot clé de noter, dans son cœur, il a dit. Dans son cœur, il a dit. Donc, il reste à Gath et il dit, est-ce qu'on peut rester dans un petit ville pour nous-mêmes. Et Achish a dit, bien sûr, tu peux. Il a donné Ziglag, une ville pour David de vivre avec ses hommes et avec les familles. Il reste là. Au même temps, cette situation avec Saul est en train de devenir plus grave. Il va parler avec le sorcier de Endor. Après, donc, il va parler et chercher de demander de, qu'elle cherche l'esprit de Samuel. Ça, c'est sérieux. Donc, tu vois comment un homme descend dans la dépravité et dans la folie à cause de le châtiment de Dieu. On arrive après de ça de David qui était appelé avec ses soldats par les Philistins de préparer pour l'armée philistine d'attaquer Israël. Et David était là avec Achish en train de marcher et les autres princes philistins ne sont pas contents de voir David être avec Achish. C'est une préparation pour la bataille contre Saul et eux, ils pensent que David va tourner pour aider Saul. Donc, ils ont dit non. Laisse-lui de partir, de retourner à Ziklag. Achish était déçu, mais il a dit, OK, il faut que tu fasses. En arrivant à Ziklag, David a trouvé que la ville était détruite complètement. brûlé jusqu'à la fondation. Et toutes les familles sont enlevées par les... c'est des Amalekites. Est-ce que c'est des Amalekites? Amalekites. Donc, ils ont enlevé tous Amalekites, les Amalekites. Ils ont enlevé c'est un peuple qui sont condamnés par Dieu pour être tués. Des Amalekites, les Amalekites. Donc, c'est un groupe de soldats qui ont enlevé et pris toutes les familles, les femmes et les enfants. Ils n'ont pas tué les femmes et les enfants de David et ses hommes. David et les hommes commencent à pleurer. Pleurer toute la journée parce que tout est perdu maintenant. Il n'a aucun espoir. Donc, ils arrivent de passage de temps parce qu'il n'y a rien. Et ils sont en train de processer tout ce qui a passé. Ils sont disorientés. Trop de choses à passer. Si on est dans cette situation, on ne va pas tout de suite trouver une solution. On arrive de dire, OK, il faut que je dois absorber, je dois voir tout ce qui est passé avant que je peux faire ça. C'est trop pour mon âme. Et les hommes commencent à critiquer David et dire, c'est ta faute que nous sommes dans cette situation. Et David était troublé tellement parce qu'il voit qu'il va être, en fait, ces hommes vont lapider David. Il va être tué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne vers le Seigneur. Il encourage lui-même dans l'amour de Dieu. Édifie lui-même. Et il demande le sacrificateur, est-ce que tu peux demander au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et le Seigneur dit, cherche, chasse, tu vas trouver tes familles et tu vas gagner, racheter tout en fait. Et c'est exactement la chose qui est passée. Et David est retourné à Ziklag. Et maintenant, je vais amener des applications avec le contexte. La première chose, comme je dis en verset 1 de chapitre 27, David a décidé dans son propre cœur de prendre une décision. Et depuis ce moment, on voit que le nom du Seigneur n'est pas mentionné. Avant et après, David parle du Seigneur, il parle de son Dieu. Mais pendant ces passages, on ne voit rien jusqu'à le moment où il invoque le Seigneur et encourage lui-même dans le Seigneur. David est en train de prendre une décision lui-même. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que c'est trop pour lui de continuer de courir, chasser par Saül. Qu'est-ce qu'il oublie? Que le Seigneur a oint David et prépare lui pour être le roi. Et Samuel était choisi de faire ça. Et Jonathan lui-même a vu qu'il va être le roi. Ça veut dire tous les indicateurs impliquent que le destin de David n'était pas déjà fini. Il est quelque chose dans le futur. Et dans ce moment ténébreux, David ne voit pas ça. Parce que s'il voit ça, il veut dire le Seigneur était toujours fidèle avec moi pour Saul. Chaque fois que Saul me cherche, le Seigneur a toujours de me délivrer. Mais il n'est pas en train de dire ça à ce moment. Il a dit, j'en ai marre d'être toujours en courant partout en Israël, de chercher les endroits de cacher. Maintenant, je vais aller ailleurs. Quelle est l'application pour ma vie? De ne pas appuyer par ma propre intelligence, mais de voir le Seigneur dans toutes choses et mettre toute ma confiance en lui. Parce qu'en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on marche par la foi et par la vue. Par la vue, David peut voir, c'est une situation aggravée avec Saül. La chose qu'il ne comprend pas est qu'il est en train d'être exalté et préparé pour le trône. Et Saul était en train de préparer d'être jeté parce qu'il a refusé le Seigneur. Il n'a pas la vision, évidemment, parce qu'il n'est pas Dieu. Mais il a perdu la confiance en Dieu. Il a fait confiance en lui-même. Il a pris une décision. Depuis ce moment, maintenant, il doit assumer les conséquences de cette décision. Application, prends pas les décisions rapidement. Prends pas les décisions le soir. Prends pas les décisions quand on est émotionnel. Prends pas les décisions quand on est en colère. Prends pas les décisions quand on voit une situation et on réagit parce qu'on est sous la pression. Si c'est l'argent impliqué, si c'est une question de relation, prendre une pause et un recul. Chaque fois, ma mère, pas du tout un chrétien, a toujours dit, dans son histoire de l'argent, elle ne va jamais être stressée ou poussée par les autres de faire un engagement et un contrat avec l'argent. Parce qu'après, ça va être des implications graves pour elle et pour les autres. Donc, dans cette situation, bien sûr, nous avons on dit en anglais hindsight, nous avons la possibilité de regarder de notre situation ce qui est en train de passer avec David. Il n'avait pas cette perspective et nous avons cette perspective. Mais la leçon à prendre est de ne pas courir de réagir. C'est une couverture, on a parlé de ça jeudi soir. Est-ce qu'il a soumis de notre couverture la peur peut-être et pas la couverture parfaite de l'amour de Dieu? C'est possible parce que c'était une frustration, probablement fatiguée aussi. On ne sait pas parce qu'on n'était pas là avec lui. On va demander quand on est au ciel avec lui. Mais la décision de prier, c'est une mauvaise réflexion. Il a dit dans son cœur, on prend les décisions pas avec la tête. Le cœur est notre motivateur. C'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos pensées. On pense et on vit avec nos émotions de cœur. L'intelligence est utilisée, c'est en action et unité avec le cœur, mais c'est le cœur qui décide. Parce que si mon cœur n'est pas impliqué, je ne vais pas avoir la motivation de appliquer les décisions. Mais il a décidé. Voilà. Est-ce que c'était peut-être quelque chose en train de passer depuis un certain temps, comme un petit souci qui parle dans son oreille? Oui, est-ce que tu vraiment vas continuer de faire ça? On ne sait pas tout. Mais pour nous, écoute pas les voix dans nos oreilles qui disent: est-ce que tu vas vraiment continuer de faire cette vie chrétienne? Est-ce que tu es vraiment bien de faire ça? C'est des choses qui nous aident à de pousser d'un compromis et après on va avoir des problèmes. Deuxième point, la vie avec le Philistin. David est maintenant engagé avec Achish. Achish est un Philistin. David a tué les Philistins. David est un soldat. David a tué Goliath. Et David, après, il va retourner être le roi, va avoir guerre contre les Philistins. David est en train de jouer, je crois que les espions font ça, un double jeu. C'est un double jeu qu'il fait ici. Il a dit, je vais avoir un confort parce que Saul ne va pas me chasser. Oui, tu peux avoir un repos temporaire dans ce cas. Mais maintenant, tu as un autre problème. Tu es sous la couverture d'un ennemi de Dieu. Tu es dans un bon rapport avec lui parce qu'il voit certaines choses que tu fais. Mais tu es en train de vivre une vie de mensonge, David, parce que tu es maintenant sous le service de quelqu'un d'autre et ce n'est pas Dieu. Tu es en train de servir un homme qui est, on ne sait pas tous les détails, mais idolâtreur, quelqu'un qui sert un autre Dieu. Et toi, tu dois être soumis de service de cet maître parce que ce n'est pas juste le cas de chercher asile ailleurs, c'est une implication que tu es maintenant sous la couverture de quelqu'un d'autre et tu es un serviteur de quelqu'un d'autre et tu dois assumer les obligations de service cette fois. Ce n'était pas une démocratie. C'était un, je cherche pour le mot, mais une monarchie. Donc plutôt, il doit obéir le roi Achish. Il était serviteur. Ça veut dire quand Achish a dit, il faut que tu fasses la guerre contre le Juda, contre les Israéliens. Il ne peut pas parce qu'il ne peut pas tuer ses propres peuples. Qu'est-ce qu'il fait? Cherche les autres tribus, pas juifs, qui sont proches de Gath et les Philistins. Et il a tué certains. Et lui, il a, quand il a fait ses attaques, il avait tué tout le peuple. Des hommes, des femmes, des enfants, il a détruit tout. C'était une guerre d'annihilation, total destruction totale. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser un témoin de retourner à Gath et parler avec Achish et dire, David est en train de ne pas attaquer Israël, il nous attaque. Et écoute, David maintenant doit jouer un jeu que, en fait, souvent dans les guerres, les gens font, ils font un double jeu, les espions aussi. Est-ce qu'il va avoir la paix quand ils vivent comme ça? Est-ce que ces hommes vont voir un homme de Dieu? Il essaie de faire avec son intelligence ici. Il est en train de calculer et faire des choses, mais est-ce que Dieu est avec lui dans ce moment? C'est un exemple d'une histoire, on peut dire, dans la Bible, on voit David en train de faire quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose de plaisant de regarder et lire. Peut-être parce que c'était Dieu en train de révéler que nous avons la possibilité de faire la même chose. Si on prend une décision qui doit nous impliquer d'aller plus loin, on va assumer les conséquences de ça. Parce que le jeu va être de plus en plus grave et de descendre dans ce jeu. Je dois jouer et jouer et jouer et je ne peux pas arrêter. Donc, c'est de devenir plus en plus grave et plus en plus ténébreux pour lui. Et le plus il est impliqué, qu'est-ce qu'il va faire pour retourner? Je me rappelle de Macbeth, une pièce de théâtre de Shakespeare. Macbeth, c'était pas exactement, c'est pas du tout la Bible, c'est pas du tout, mais une citation, Macbeth a dit, il a tué Duncan, le roi de Aegos. Il a tué cet roi pour prendre le rôle de roi. Il avait fait ça avec les mensonges et avec le sang. Les gens tués. Il a dit, maintenant je rêve d'aller trop loin que pour retourner, je dois tuer de plus en plus de personnes. Ce n'est pas la peine, je dois aller tout loin. Je dois finir ma course de dépravité, en fait. Ce n'est pas une bonne réflexion, mais simplement te dire, pour David, il est en train de descendre dans une situation que comment il va trouver la solution. Ce n'est pas évident. Donc, il cherche pour une solution, peut-être. Peut-être il ne peut pas dormir le soir. Je ne sais pas, mais je peux imaginer quelqu'un dans cette situation va essayer de réfléchir et bien sûr va avoir des regrets. Est-ce qu'il était en paix de tuer tous ses enfants, toutes ses femmes, tous les peuples? Peut-être pas. Est-ce que dans la Bible, Josué était... pas ordonné, mais Dieu a demandé de faire certaines choses. Bien sûr, c'était dans un, qu'est-ce qu'on dit, dans un cadre précis dans la Bible, particulièrement dans le livre de Josué. Mais ici, je pense que ce n'était pas le bon moment et David n'était pas dans la bonne position et lui, il a fait le meilleur peur dehors de la volonté de Dieu. Il est dehors d'Israël, ça c'est la première chose. Maintenant, il est sous l'autorité d'un Philistin. Donc maintenant, il doit tromper son propre, on peut dire son nouveau maître. Il doit faire des mensonges. contre lui. Il doit monter, en fait. Et il ne va pas être en paix avec ça. Et ses hommes vont voir ça aussi. Donc, quand on prend les décisions, les autres suivent nos décisions. Ça, c'est pour moi aussi. Leader. Je dois prendre les bonnes décisions parce que les gens suivent les autres. Pierre, je vais retourner au pêche. Jean chapitre 21. On va aller avec toi, les autres disciples. Donc, quelle est la situation? David, Pierre amène les gens de sortir du plan de Dieu. Et c'est les apôtres ici, c'est Pierre. Bien sûr, c'était tourné pour le bien. Mais de savoir, c'est possible pour nous de sortir de notre chemin avec le Seigneur et les autres vont suivre ça. Parce que nos vies sont connectées et impliquées. Troisième point. Maintenant, on peut voir la main de Dieu. Je regarde ce passage et je pose la question, qu'est-ce qui est en train de passer ici? Maintenant, devant les autres Philistins, David est là avec Achish. Et les autres princes des Philistins disent, pourquoi que cet homme qui était tout de Philistins sur Saul est là, ici? S'il entre dans la guerre contre Saul avec nous, il va tourner contre nous. On ne peut pas faire confiance en lui. Je crois que c'était peut-être un clin d'œil de Dieu de dire, je ne vais pas laisser David. Parce qu'il connaît la situation avec David et en fait, il peut voir la fin de toute cette histoire pour sa rédemption de David et pour Israël. Mais lui, il va, on peut dire, faire des choses invisibles. On ne peut pas voir le nom de Dieu dans ce passage, mais on peut voir que Dieu a arrêté David d'être impliqué dans cette guerre. Parce qu'imagine si David était impliqué. Il va être dans le champ de bataille. Saul était là, Jonathan était là, David était là avec Achish et les autres Philistins. Et qu'est-ce que David va faire dans cette situation? Il va être forcé de prendre des décisions. Et donc, ce n'est pas évident pour lui. Donc, il doit décider. En fait, la décision était faite pour lui. La décision était faite, il était enlevé par Achish parce que les Philistins disent, on ne va pas accepter. Ça veut dire Dieu est à l'œuvre et on ne peut pas voir. Ça veut dire il va impliquer pour couper le chemin. Peut-être on doit discerner, ah, pourquoi que cette chose a passé? J'étais tellement dans une situation grave et quelque chose a passé. C'était quelque chose bien pour protéger David. Peut-être il va mourir sur le champ de bataille s'il a accepté, il était accepté d'entrer dans cette guerre. Ce n'était pas sûr, mais je pense que c'est une protection pour lui. Parce que Saul aussi, la situation avec Saul était arrivée jusqu'au bout qu'il doit mourir. C'était un acte décidé par Dieu de finir, c'est le péché de la mort, le péché jusqu'à la mort que Jean parle. Donc lui, il était amené à mourir et David était enlevé. Des fois, Dieu va faire des choses et on ne va pas comprendre l'histoire. Et on va dire, pourquoi que je n'étais pas là dans cette situation? Parce que Dieu ne veut pas qu'on mêle avec le marche chrétienne de quelqu'un d'autre. Il va nous enlever parce que ce n'est pas pour nous d'être là-bas. Donc, avec les Philistins, ils ont levé d'une situation compliquée. Le porte est fermé, ils retournent. Maintenant, on arrive de voir quelque chose d'intéressant au chapitre 30. Ça, c'est point numéro 4. Ziglag est brûlé. Oh, pardon, je vais être plus clair. Point 1, une décision prise sans Dieu. Point 2, la vie avec les Philistins, les compromis. Point 3, bloquer d'entrer dans une situation compliquée. Ça, c'est pousser dehors de cette bataille afin qu'il les protège en fait. Protection divine, on peut dire comme ça. Point numéro 4, les ponts sont brûlés. On peut dire Ziglag était brûlé. Pourquoi que Ziglag était brûlé? Parce que le Seigneur est maintenant impliqué dans l'histoire de le point qu'il ne veut pas que David reste à Ziglag. Donc, pour détourner David de retourner dans cette situation, il va brûler Ziglag afin qu'il n'ait rien pour rester. Parce que dans cette histoire, après, on va voir qu'il a resté, après il a trouvé ses familles, il est retourné à Ziglag et resté 3 jours. Après ça, il est retourné en Juda, il a demandé au Seigneur. Donc, il retourne en Juda, ça veut dire, David, je brûle la maison parce que c'est fini. Son histoire à Ziglag est finie maintenant. Et la deuxième chose avec cette situation à Ziglag est que les Amalécites, ils ont pris les peuples, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils n'ont pas tué. Ça, c'est on voit la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu laisse un ennemi peut-être d'être utilisé par Dieu pour la discipline divine. C'est possible. Il a déjà fait ça avec Nebuchadnezzar et les Babyloniens contre Jérusalem. Donc, il utilise les Amalécites pour cette discipline. Mais ils ont dit, limite, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Et un exemple de Dieu de mettre des limites, évidemment Job chapitre 1 et Job chapitre 2, quand il désigne au diable, tu ne peux pas toucher sa vie, tu ne peux pas tuer Job. Et ici on peut voir en Job chapitre 38, 10 et 11, il met les limites dans la nature avec les vagues. Il dit, jusqu'au ici et pas plus. Un Dieu qui peut dire que les déluges, que les vagues, que la mer, que les eaux peuvent arriver jusqu'à ici et pas plus. Et le même Dieu va nous pousser peut-être de traverser une souffrance et un échec des fois. Il va dire, mais ça va être limité d'un tel moment précis et après c'est fini. On pense de cette verset que la tentation, il n'y a aucune tentation trop pour l'homme. Ça veut dire c'est mesuré. Dieu qui est un Dieu de mesure, qui est précis, est un Dieu qui n'est pas, qu'est-ce qu'on dit? Il est tellement précis dans son application dans la vie. Il ne va pas donner trop plus que nous pouvons supporter. Ça, c'est notre Dieu. Dans tous les domaines de la vie, pense à le décès de quelqu'un, quelqu'un qui en meurt. Est-ce que Dieu va nous laisser de trop? Non, il va, bien sûr, on va passer par le deuil, mais Dieu va être avec nous. Passer par un passage trop de travail, quelqu'un qui souffre dans son travail, quelqu'un qui perd une relation, un mariage, un divorce, toutes ces choses. Est-ce que Dieu va nous laisser aller trop? Non, il va limiter nos souffrances. Parce que tout concourt pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, Dieu va utiliser les souffrances, les douleurs, les problèmes dans nos vies comme des outils, comme les collaborateurs pour notre sanctification. Et il a fait ça avec David. Les Amalécites sont là pour la sanctification de David, afin qu'on peut comprendre que tout concourt bien pour un Dieu. Est-ce qu'il a accepté les Amalécites? Non. Les Amalécites sont tués après, parce que c'est un outil utilisé par Dieu, mais c'est un outil, bien sûr, ils sont condamnés par Dieu. Est-ce que Dieu peut utiliser les ennemis de Dieu contre son peuple? Oui, nous avons déjà dit. Mais Ziglag brûlé et avec des limites, les enfants et les femmes, les familles sont protégées. Amenés, bien sûr, peut-être maltraités, mais ils ne sont pas tués, ils sont amenés ailleurs. Destruction totale, on a déjà parlé. Souffrance. Il faut passer par ces moments. Exemple de ça, Lazare est mort. Et Jésus ne veut pas tout de suite dire, en 3 minutes ou 15 minutes, tout va tomber. Lazare va sortir du tombeau. Non, il y a un passage de temps. On est des êtres humains. On n'est pas, Dieu n'est pas là juste de te faire, si je dis avec révérence, le magique. Ça veut dire, il fait un miracle comme ça et tout va bien et on est tous souriants. Non, la souffrance est partie de la vie. Le trouble est partie de la vie et on doit avoir un temps de passage dans ces choses. On ne va pas être toujours content. On a une joie dans nos cœurs, mais aussi des fois on va vivre et passer par un moment de souffrance, de deuil, de tristesse. C'est aussi un collaborateur pour notre bien, pour notre, afin qu'on peut glorifier Dieu. Donc, ces moments, ils ont passé une journée de pleurer. Est-ce que c'est un gaspillage de temps? Je ne pense pas. Je pense que Dieu a utilisé ça. Dieu était dans la souffrance. Il était avec David. Il était avec ses hommes. Il n'était pas distant avec une indifférence totale. Non, Dieu était impliqué. On connaît notre Dieu. Il est à côté de nous. Il écoute. Il est compassion. Il avait une compassion pour nous. Prochain ce point, quand les hommes voulaient tuer David, maintenant je vois que Dieu est en train de pousser David en action. David ne peut pas rester comme ça, indifférent. Bien sûr, il est en train de pleurer aussi avec tristesse. Mais vois comment Dieu pousse David maintenant d'action. David ne reste pas dans la patience. Passivité, ni qu'il reste dans un sens que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'action était négative. Ces hommes disent on va tuer David. Est-ce qu'ils ont tué David? Non. Est-ce que David était poussé de tourner vers Dieu? Oui. Tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Les menaces de ses propres hommes, on va tuer David. Imaginons. On est dans cette situation, entouré par 600 hommes en train de crier. C'est pourquoi David? Imagine, il supporte le stress de ça. Ce n'était pas facile, ce n'est pas juste le noir et blanc sur une page. C'était les émotions, c'est des voix, c'est des gens en train de crier peut-être. Et lui, il était bouleversé aussi. Il est un homme de Dieu. Il est toujours vivant. Mais voir quelque chose plus, il est aussi comme nous, touché par les souffrances. Et lui, il voit ses hommes, il voit aussi qu'il a perdu ses deux femmes. Donc, voir que lui, il dit, OK, il a une solution. Je vais demeurer sous l'abri de mon Seigneur. Psaume 91, je vais demeurer être caché sous les ailes de mon Dieu. Je vais être protégé par lui. Je suis un petit poussin sous les ailes de la maman poulet. La maman poule. Et voir comment Dieu est à œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché d'édifier lui-même dans le Seigneur. Réponse bien maintenant. Il a tourné vers le Seigneur et c'était pas, il a resté en train de pleurer du Seigneur, je ne mérite pas, je suis condamné, je suis accusé, je ne peux pas vivre comme ça. Pardonne-moi, tourner dans un rond pour 5 heures. Non! Il a compris la repentance. Ce n'est pas l'effort de pleurer, c'est le cœur. Merci Seigneur, pardonne-moi. Et après, il obéit et marche avec le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, OK, on va appeler notre sacrificateur et on va demander à lui de parler, de demander au Seigneur. Et le sacrificateur fait exactement ça. Et le Seigneur dit, tu peux chercher les Amalécites, tu vas prendre tout, tu vas regagner tout. Et ici, ils font exactement ça. Et j'ai deux choses à dire sur ce point. La première chose, ce n'était pas une vengeance qui a motivé David. C'était sa relation avec le Seigneur. Parce que s'il était monté par la vengeance, il ne va pas écouter le Seigneur. Il va réagir tout de suite, prendre les armes et dire, on va tuer les Amalécites. Non, maintenant, il ne prend pas une décision dehors de Dieu. Il a appris une leçon. Maintenant, sur le stress du moment, je vais rester dans l'amour de Dieu. Je vais édifier moi-même dans sa foi. C'est Jude, est-ce que c'est versets 20 et 21, de chercher la miséricorde de Dieu, de garder moi-même dans l'amour de Dieu, de prier avec le Saint-Esprit. C'est lui qui fait ça maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit un exemple on dit en anglais divine reversal. En français, c'est le reversement divin. Bouleversement divin. Ça veut dire, dans le moment où on a pensé que c'est un échec et rien ne peut être rédemptif. Rien ne va être gagné de ça, mais ce n'est pas vrai. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Si ça c'est vrai et c'est toujours vrai, la clé est de retourner au Seigneur et de dire, ok, je suis là. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes à moi? Je veux t'obéir. Et maintenant, sous la couverture de Dieu, l'amour de Dieu, le repos de Dieu, la paix de Dieu, il peut penser clairement, il peut écouter la voix de Dieu, il peut prendre une bonne décision, il peut motiver ses hommes pour chercher tous les Amalécites et de rattraper, de racheter le temps, racheter et un rédemptif, de prendre toutes les femmes, tous les enfants. Et on voit que c'était possible pour David. Est-ce que ça va être possible pour nous? Je paye beaucoup de l'argent, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Si tu tournes vers le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut tourner tout ce qui était mal pour le bien? La seule folie est de continuer dans le même chemin et penser que tu peux arriver avec ta propre force. Non, David a réalisé le fait qu'il doit retourner vers le Seigneur. Le Seigneur va, avec une rédemption, racheter le temps. En fait, parce que le Seigneur n'a pas laissé tous pour tomber. Les familles sont toujours vivantes. Donc, en fait, c'est une question maintenant de retourner au Seigneur. Mais Seigneur, tout est brûlé. Oui, c'est brûlé pour une raison, parce que je veux que tu retournes à Israël. Donc, voir comment c'est des indicateurs utilisés par le Seigneur pour pousser David vers le Seigneur, de nouveau. Et quand il était poussé vers le Seigneur, de continuer de suivre ces indicateurs, parce que Dieu parle par des autres personnes et par les circonstances. Et ça, c'est un indicateur des témoins de Dieu. Deux ou trois témoins qui confirment qu'une fête est établie. Pour nous, est-ce que Dieu parle? Oui, il parle. Regarde les indicateurs, ces témoins qui parlent. Et marche avec lui. Sors pas de le plan de Dieu. Pas prendre les décisions impulsives avec tes émotions. Arrêtons et écoutons Dieu. Et restons dans son paix, sa paix. Et tout est pour sa gloire, parce qu'après, qu'est-ce que se passe? Nous avons la gloire de Dieu. David a cherché de glorifier Dieu. Il est l'homme après le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, en Actes chapitre 13. Et donc, cet épisode, en fait, en contraire de penser, on pense, ah, David, il n'était pas si bien que ça. Non, David était dépravé comme nous tous. Il avait une ancienne nature pécheresse comme nous tous. Mais David, comme le juste, tombe cette fois, mais il se rebonde. Et nous pouvons également aussi. Et donc, de voir que Dieu est en train de faire ces bouleversements divins dans nos vies, de tourner les choses pour le bien. Parce que à la fin, c'est de transformer, de sanctifier. Donc, ce processus de sanctification n'était jamais une perte. Oui, mais j'ai passé 13 ans courbé comme ça, en train de regarder la terre. La femme courbée a dit, oui, mais 13 ans étaient rachetés. Maintenant, tu marches pour la gloire de Dieu. Et donc, juste pour dire, nos échecs, nos mauvaises décisions et pas la fin de l'histoire. Dieu cherche pour la rédemption. Il est engagé dans nos vies parce que son esprit demeure en nous. Donc, juste de savoir, Dieu est avec nous et tout va être là pour nous transformer d'être comme Jésus dans son image. Que Dieu vous bénisse.